did you see the movie Good Morning Vietnam? For me, it was the best movie before the war, you know, because I saw that as the best place to have, you know, the radio and run the radio. But when I saw the war, it was really bullshit movie.
As-tu vu le film Good Morning Vietnam? À mes yeux, c'était le meilleur film avant la guerre. Je pensais que cela représentait le meilleur moment pour faire de la radio. Et puis j'ai vu la guerre et j'ai compris que tout ça était un tissu de conneries. Il n'empêche qu'avec mes amis, nous avons continué la radio et c'était un très très beau moment. Dans cette situation, tu te rends à la radio sans même savoir si tu vas survivre entre ton appartement et la radio. Tous les jours, tu perds des auditeurs. C'est de l'humour noir, mais c'est vrai. L'adrénaline te donne une énergie folle à ce moment-là. C'est impossible de comparer faire de la radio avant, en temps de guerre et en temps de paix. C'est torturant. Pas de nourriture, pas d'électricité, des tirs de mitraillettes et des grenades tout autour de toi. Malgré tout, tu essaies de créer cette chose superbe qu'est la radio. C'est un sentiment incroyable.
Les murs de Sarajevo et de Mostar racontent toujours la dislocation de la Yougoslavie, commençant en 1990. Plusieurs pays membres de cette fédération, Croatie, Slovénie, Bosnie-Herzégovine, organisent des élections libres. Le résultat des élections multipartites en Bosnie voit l'accession au pouvoir des trois partis nationalistes, croates, le HDZ, serbes, le SDS, et musulmans, le SDA. Les principaux acteurs de la guerre à venir sont en scène. Franjo Tudjman, membre du HDZ, est président en Croatie. Tout comme Slobodan Milošević, qui tient la tête de la présidence de Serbie depuis 1989, et Alija Izbegović en Bosnie-Herzégovine depuis 1990. L'histoire s'accélère lorsqu'en 1991, Croatie et Slovénie proclament leur indépendance. L'armée fédérale, sous les ordres de Belgrade, intervient en Slovénie, alors que dans le même moment, des incidents éclatent entre la population serbe et croate. Une médiation européenne met fin aux affrontements en Slovénie, mais la guerre se déplace et éclate en Croatie. À ce moment-là, les Nations Unies imposent un embargo sur les armes à toute l'ex-Yougoslavie. Malgré tout, la Croatie s'arme très rapidement de manière souterraine et la Serbie bénéficie de l'armement de l'armée fédérale de Belgrade. Le problème reste cependant entier pour la Bosnie-Herzégovine. Cela ne semble poser problème à personne. C'est dans ce tournant de la guerre que la Bosnie proclame sa souveraineté. En décembre 1992, après la chute de Vukovar en Croatie, la Serbie et la Croatie approuvent le plan de paix de l'ONU. La guerre ne s'arrête pas pour autant. La Bosnie s'embrase après que Radovan Karadzic fonde une république serbe en Bosnie. Des affrontements éclatent et la guerre débute en avril 1992. Sarajevo est immédiatement assiégé. C'est tout de même à ce moment-là que la CEE et les États-Unis reconnaissent la Bosnie-Herzégovine en tant que pays, sans pour autant lancer une quelconque action visant à ramener le calme. Toutes les pièces sont en place sur l'échiquier afin que la macabre partie qui durera 3 ans puisse se dérouler. Il semblait pourtant que certains États de ce monde soient à un moment tombés d'accord pour créer des outils institutionnels et politiques permettant de régler ce genre de situation. Ni l'épuration ethnique systématiquement mise en place durant le conflit, ni le déplacement massif de population n'ont réellement eu de poids dans la balance. Le nombre d'actes de lâcheté et de promesses non tenues à l'égard de ces mêmes populations civiles, quelle que soit leur nationalité, ont conduit à des drames tels que la chute de Srebrenica, où 7000 hommes bosniaques ont trouvé la mort. Les murs de Sarajevo et de Mostar continuent à raconter cette histoire 10 ans après la signature, le 12 décembre 1995, des accords de Dayton, qui mirent fin aux affrontements en Bosnie-Herzégovine. Ces accords furent paraphés aux États-Unis et signés en France durant le mandat présidentiel de Bill Clinton. Les murs de Sarajevo racontent encore la violence du siège organisé par les Serbes de Bosnie, conduit par Ratko Mladic et Radovan Karadzic. La ligne de front de Mostar reste une plaie ouverte au cœur de cette ville divisée avec d'un côté les Bosniaques et de l'autre les Croates. Mais quand nous avons rencontré ces villes et ceux qui y vivent, les questions les plus pressantes touchaient plus à comment a-t-on laissé durer aussi longtemps un tel carnage ? Car au pied des murs de ces villes, vous croisez toujours les soldats des forces internationales. Dans la rue, comme dans les institutions du pays, la communauté internationale est omniprésente. Les accords de Dayton ont avalisé les conquêtes de l'armée serbe au détriment d'une Bosnie-Herzégovine qui a non seulement perdu son caractère multiculturel, mais a aussi perdu son intégrité en tant que pays. Aujourd'hui, ce territoire est une fédération composée de la Republika Srpska, des Serbes de Bosnie, et d'une entité partagée par les Croates et les Bosniaques. Voilà 10 ans que cela dure. Alors qu'en 5 ans de guerre...
Les Nations Unies ont rien fait, quoi. Enfin, tout bêtement. Le meilleur exemple, c'est Srebrenica. Enfin, en tout cas, c'est le plus connu, où tu te retrouves avec des zones de sécurité, donc avec des gens qui ont un mandat pour défendre des enclaves, là où la moitié des dans les autres endroits, ils n'avaient pas de mandat pour tirer, en gros, on va être clair. Là, ils avaient un mandat pour défendre les civils. Et où, quand les Serbes ont décidé de prendre la ville, ça a pris 24 heures. Non seulement ils n'ont pas défendu l'enclave, non, mais en plus, ils ont livré les civils. Ils ont quand même aidé à la déportation des civils. Et en plus, et en ça, on a des documents officiels, Mladic et les hommes de l'armée fédérale et de l'armée serbe de bosniaque qui étaient là et qui a pris l'enclave et qui a vraiment massacré les civils, se sont fait quand même rembourser le carburant qui a servi pour la déportation des hommes vers les sites d'exécution. C'est-à-dire que les Nations Unies, à la fin, quand toute l'enclave a été vidée des civils, ils ont quand même rendu plus de 600 litres de carburant à l'armée serbe. Il faut être clair là-dessus, quoi. Et c'est non seulement, c'est plus qu'un rôle, si tu veux, d'abandon, c'est carrément de la collaboration.
C'est dû à quoi, d'après toi ?
Mais qui est dû à ce que la communauté internationale a toujours traité avec les vainqueurs. C'est toujours rangé du côté du plus fort, finalement. Enfin, tu le vois au Rwanda, enfin, tu vois, ça marche de partout. Et que les maîtres du terrain, c'était les Serbes, c'était pas l'armée bosniaque ni l'armée croate. Voilà, c'était plus facile de négocier avec eux et qu'à un moment donné, il fallait se libérer des zones de sécurité. Donc il y avait Gorazde, Bihać, Sarajevo, Tuzla, Srebrenica et Jepa. Et il fallait se libérer de ça parce que ça devenait une trop grosse charge sur les Nations Unies. C'est d'ailleurs probablement ce qui a sauvé Sarajevo. Enfin, il y a beaucoup de bruit comme ça, qu'en fait les enclaves ont été abandonnées et que, en échange, voilà, Sarajevo est resté en Bosnie et, parce que les Serbes auraient pu la prendre finalement. Enfin, il y a eu vraiment un moment donné où c'était quand même super limite, quoi. Et la communauté internationale, en fait, a eu une espèce de non-connaissance du terrain. Après, c'était quand même aussi défendre des musulmans, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Enfin, il y a une espèce de racisme profond, je pense, de l'Europe. Genre, je ne te parle même pas des Américains, tu vois, mais... C'est quand même une population musulmane aux portes de l'Europe. Et donc, il y a eu une espèce de mépris de cette population. Puis voilà, il y a eu l'embargo sur les armes. Enfin, ça aussi, c'était un sketch, tu vois. Enfin, Mitterrand, par exemple, qui dit non, on fait un embargo sur les armes en Bosnie parce qu'il ne faut pas ajouter la guerre à la guerre. Sauf qu'on a privé d'armes les seuls gens qui n'avaient déjà pas d'armes parce que l'armée bosniaque, elle n'existait pas avant la guerre. Autant l'armée des Serbes de Bosnie a été armée par Belgrade. L'armée croate s'est constituée hyper rapidement, mais la nationalité bosniaque, elle n'existait pas.
10 ans après la signature de ces accords, qu'en est-il de la vie en Bosnie-Herzégovine, de l'efficacité de cette paix sous tutelle ? Durant la prochaine heure, nous voyagerons de Sarajevo à Mostar, à la rencontre d'Aline Kateu et Adi Sarajlic, que vous avez déjà entendu. Aline est photographe, vidéaste. Elle a travaillé en Bosnie pendant les évacuations de population durant la guerre et sur des missions d'évaluation après la guerre. Adi est lui président de Radio 202 à Sarajevo. Sur notre route, nous avons aussi rencontré Senad Smailbegovic, Jovan Divjak et Caroline Audric, qui dresseront pour nous le portrait d'une situation se révélant toujours aussi complexe et douloureuse.
Il faudrait pouvoir revenir assez longuement sur le rôle de la communauté internationale après la guerre, quoi. Parce que franchement, enfin, entre les accords de Dayton, qui sont tout pourris, qui ont été signés à la fin de la guerre et qui ont entériné complètement le partage de la Bosnie-Herzégovine, quoi. Bon, déjà, il y a quand même de plus en plus de gens qui demandent la révision des accords de Dayton, déjà au niveau du partage. Et puis qui demande une plus réelle application des différents chapitres en fait des accords de Dayton, notamment je crois que c'est l'annexe 6 sur le retour des réfugiés que la communauté internationale s'était engagée à assurer. Or en réalité ils n'ont jamais rien fait, quoi. Ils ont dit ah vous voulez rentrer chez vous, ben rentrez, on a déminé. Et donc du coup en fait tu vois bien, je vois pas bien une femme bosniaque, enfin une femme musulmane par exemple toute seule avec ses deux gamins retournée en République serbe de Bosnie, habiter à côté du voisin qui a égorgé son mari 5 ans plus tôt, quoi. Enfin tu vois, ça a aucun sens de dire ça, mais rentrez putain, si vous voulez rentrer, rentrez. Enfin voilà, et la communauté internationale elle a vraiment fait ça, quoi. Elle a vraiment fait ça et en plus elle continue à nier sa responsabilité pendant la guerre. Et elle continue de pourrir la situation ici. Le haut représentant de l'OHR, donc Paddy Ashdown, qui est le plus haut représentant de la communauté internationale ici, il faut savoir qu'il est complètement omnipotent sur la Bosnie. C'est-à-dire que si le Parlement de la Fédération vote une loi, lui, il a le droit de dire « Non, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça ». C'est la communauté internationale qui a choisi le drapeau de la Fédération. Il n'y a pas eu de consultation nationale. C'est la communauté internationale qui décide de tout ici.
Now the chief of Bosnia-Herzegovina is from England.
Maintenant, le chef de la Bosnie-Herzégovine est un Anglais issu des forces spéciales. Il se battait en Argentine durant la guerre des Falklands. À la base, c'est un espion. C'est un soldat. C'est fou d'avoir à la tête de son pays un soldat étranger.
He's a soldier, and it's crazy that you know you have foreign soldier to be chief of you know your country.
I think it's like a Dayton agreement, you know. It's a nothing.
Ce n'est rien. C'est comme les accords de Dayton, ce n'est rien. Tout en est au stade transitoire de faire de la Bosnie un pays européen.
So, office of the high representative control all the things, but they are sometimes involved, sometimes not. So, for young people,
le haut représentant contrôle tout, et par moments, il ne fait rien. Durant les 15 dernières années, je suis devenu un vieil homme. J'ai 40 ans aujourd'hui. Lorsque la guerre a éclaté, j'en avais 28 ou 29.
So it's a very slow process. And I think
tu vois bien que c'est un processus très lent. Et je pense que c'est dû à cet organisme. Ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Ils n'interviennent que lorsque nous n'arrivons pas à trouver un terrain d'entente pour un drapeau, un document ou n'importe quoi d'autre. Par conséquent, ce n'est pas un protectorat, c'est entre les deux.
So, it isn't protectorate, it's half-half. It's definition.
Senad Smail-Begovic, que vous venez d'entendre, est à l'heure actuelle impliqué dans la création d'un parti sociodémocrate en Bosnie. Les influences étrangères en Bosnie-Herzégovine ne se limitent pas au domaine politique. Dans un extrait de son ouvrage « Mondialisation de la pauvreté », Michel Chosudovski, professeur de sciences économiques à l'Université d'Ottawa et directeur du Centre de recherche sur la mondialisation, analyse la mise en place d'un gouvernement parallèle instauré par les États-Unis et l'Europe dans ce pays. Le texte date de 1996. Les noms des acteurs ont changé, pas le système dans lequel ils trouvaient leur place.
En Bosnie, tandis que les forces de l'OTAN maintiennent une paix fragile, l'Occident a levé le voile sur un programme de reconstruction qui prive le pays de toute souveraineté économique et politique réelle. Son objectif affiché, développer la Bosnie-Herzégovine comme un territoire divisé sous occupation militaire de l'OTAN et sous administration occidentale. Sur la base des accords de Dayton de novembre 1995, les États-Unis et l'Union européenne ont installé une véritable administration étrangère en Bosnie. À sa tête se trouvait le haut représentant civil de la communauté internationale, M. Carl Bildt, ancien premier ministre suédois et représentant de l'Union européenne au pourparlers de paix. Le haut représentant possède les pleins pouvoirs exécutifs sur toute question civile, avec droit de passer outre aux objections des gouvernements de la Fédération bosniaque et de la Republika Srpska des Serbes de Bosnie. Il agit en liaison étroite avec le haut commandement militaire de la force d'imposition, IFOR, ainsi qu'avec les agences donatrices. De surcroît, une police civile internationale, dirigée par un commissaire étranger nommé par le secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros Boutros-Ghali, a été déployé dès 1996 en Bosnie. 1700 policiers issus de 15 pays qui, pour la plupart, n'avaient jamais posé le pied dans les Balkans avant un entraînement de 5 jours à Zagreb. L'Assemblée parlementaire mise en place en vertu de la Constitution prévue par les accords de Dayton servait surtout de tampon officiel. Derrière la façade institutionnelle, le pouvoir politique de la nouvelle Bosnie reste aux mains d'un gouvernement parallèle, dirigé par le haut représentant et composé de ses conseillers étrangers. L'article 7 de la Constitution stipule que le premier gouverneur de la Banque centrale doit être désigné par le FMI et qu'il ne peut être un citoyen de la Bosnie-Herzégovine ni d'un État voisin. En vertu du même article, la Banque centrale n'a pas le droit de fonctionner comme Banque centrale. Pendant 6 ans, elle ne peut accorder de crédit par création monétaire, opérant à cet égard comme un simple institut d'émission. Bref, comme les autres États issus de l'ex-Yougoslavie, sa capacité à autofinancer sa propre reconstruction sans augmenter massivement sa dette extérieure est limitée dès l'origine. Les tâches liées à la gestion de l'économie bosniaque ont été soigneusement réparties entre les agences donatrices. Si le FMI veille sur la Banque centrale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, est à la tête de la Commission des entreprises publiques qui dirige les opérations de toutes les entreprises du secteur public, énergie, eau, poste, route, chemin de fer, etc. C'est même le président de la BERD en personne qui désigne le responsable de cette commission, également chargé de la restructuration du secteur public, autrement dit de la vente des entreprises étatiques et à propriété sociale, ainsi que de l'acquisition de fonds d'investissement à long terme.
D'une manière plus extérieure, mais très influente sur la résolution des problèmes de l'après-guerre, le Tribunal pénal international de La Haye ne semble pas jouer le rôle qui lui a été confié par la communauté internationale en 1993 lors de sa création. Slobodan Milosevic, président serbe durant le conflit, Ratko Mladic, chef de l'armée des Serbes de Bosnie, Radovan Karadzic, président des Serbes de Bosnie pendant la guerre, y sont inculpés pour crimes contre l'humanité. Pour autant, les deux derniers restent introuvables.
Là où j'espère que Karadzic et Mladic seront arrêtés un jour, c'est que d'abord ils doivent être arrêtés, ils doivent juger, ils doivent payer. Mais je pense que ça va être un régal parce qu'on va apprendre... on va apprendre trop de choses, que ce soit sur le gouvernement de Mitterrand, qui franchement a fait des dégâts tellement hallucinants. Ils ont une politique pro-serbe tout du long. Et je pense qu'on va apprendre, de la bouche de ces gens-là, on va apprendre des choses mais hallucinantes, quoi. Comme Milosevic a commencé à parler pendant son procès de ses relations avec les renseignements militaires américains, par exemple. Ça, c'est clair qu'à terme, on va apprendre des choses hallucinantes. Et je pense que c'est pour ça que Mladic et Karadzic ne sont pas arrêtés au jour d'aujourd'hui. Tout le monde sait qu'ils sont ou à Palais ou à Foča. Si on avait voulu les attraper, il faut arrêter de délirer. On les aura attrapés depuis super longtemps. Mais c'est l'intérêt de personne, en fait, qui est ces procès.
Ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas l'Europe qui a, on peut dire, envoyé à La Haye Milosevic et les autres. C'est le gouvernement serbe de Belgrade. Mais les Serbes d'ici, le gouvernement même bosnien, ne veulent pas, ils ne sont pas capables, ils ne s'intéressent d'envoyer là. Et de l'autre côté, j'ai l'impression que l'ONU, que haut représentant, fait une pression au gouvernement serbe qui doit faire ça. Je pense si l'Europe, l'ONU, je ne sais pas quelle troupe, attrape Karadzic Mladic, les Serbes peuvent dire non, ce n'est pas nous. C'est vous, et pendant milliers d'années, il reste les héros, tous les deux. Mais les Serbes doivent faire ça, et j'espère, j'ai entendu les rumeurs les derniers, encore 2-3 jours, il sera à La Haye, mais je ne crois pas. C'est-à-dire, l'Europe, il est un peu, comment on peut dire, flexible, il n'est pas décisif, et on peut dire que les Serbes sont obligés de faire ça. Les dernières à moi, c'est le gouvernement serbe qui dit souvent, le gouvernement serbe de République serbe, il dit souvent, oui, c'est la première fois, nous sommes obligés. Et le rapport de cette commission sur Srebrenica, c'est la première fois que les Serbes ont appris, le gouvernement serbe a dit, voilà, c'était génocide sur les Bosniaques.
Jovan Divjak est particulièrement représentatif d'un état d'esprit bosnien. Entendez par bosnien, n'importe quel citoyen vivant en Bosnie-Herzégovine, au-delà de sa nationalité première. Le terme bosniaque désigne, lui, les membres de la communauté musulmane en Bosnie. Jovan Divjak fut le second de l'Armia, l'armée bosniaque, pendant la guerre. Bien que d'origine serbe, il n'a pas rejoint les rangs de la JNA, l'armée fédérale placée sous le commandement de Belgrade. Par contre, il a participé à l'organisation de l'Armia tout au long du siège de Sarajevo où il vivait depuis 30 ans. Divjak ne fait aujourd'hui plus partie de l'armée et s'occupe de l'association L'éducation construit la Bosnie qu'il a fondée en 1994.
Here that build the death planes, here that build all the bombs, here that hide behind walls, here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain.
Moi j'ai 35 ans, donc tous les hommes que je connais ici qui ont mon âge, c'est des anciens soldats. Bon, en Mostar, c'est un peu différent, mais par exemple en Bosnie, c'est vraiment quasiment tous des gens qui se sont battus pour une, quand même une certaine idée de la Bosnie, quoi. Et c'est des gens maintenant qui sont complètement privés de parole, parce que la Bosnie pluriethnique, multiculturelle, elle n'existe pas. C'est des gens qui se sentent vachement floués.
You hide in your mansion, while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world. Before threatening my baby, unborn and unnamed, you ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know? But to talk out of turn, you might say that I'm young, you might say I'm unlearned. But there's one thing I know, I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find, when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon, and I watch while you're lowered down to your deathbed, and I stand over your grave till I'm sure that you're dead.
Livrer les criminels de guerre, quelle que soit leur nationalité, impliquerait la reconnaissance de l'absurdité morbide générée par ces nationalismes et la mise en place d'un travail de mémoire indispensable pour le bien-être des Bosniens. Ces perspectives sont loin d'être envisageables à l'heure actuelle car toutes les présidences sont occupées par les trois partis nationalistes qui ont participé à la guerre. Le HDZ croate, le SDA bosniaque et le SDS serbe. Tout cela ne semble pas perturber outre mesure les Nations Unies dans leur action sur le terrain.
Two years ago, I asked one of the it's a deputy in OHR guy, professor, I don't know the name of the guy, and ask him why after this war, why you gave to our people elections, for example.
Il y a deux ans, j'ai demandé à un député de l'OHR pourquoi ils avaient organisé des élections aussi vite après la guerre. Qu'espéraient-ils? Tout le monde a voté pour un parti nationaliste en 1996. Tout le monde était encore dans une logique de guerre.
And this process is going too slow. That the people can't think.
Personne,
like
même encore à l'heure actuelle,
like
n'est à même de réfléchir de manière démocratique. Like tout le monde reste sur des positions serbes, croates ou bosniaques. Tous ceux qui pensent différemment sont perdus. Si l'OHR a le pouvoir entre ses mains, ils peuvent prendre bien des décisions. Dans un premier temps, ils devraient arrêter de demander leur avis aux partis politiques et plutôt s'adresser au peuple.
They can make many decisions. For example, they don't have to ask our politicians how to change. They have to ask a people, not politicians, because now all the 90% of the politicians which are in different levels of the parliament and other things, government and other institutions, they are war politicians.
90% des politiciens qui sont à différents niveaux du parlement, du gouvernement et d'autres institutions sont issus des partis politiques qui ont conduit à la guerre. Ils sont les produits de la guerre. Il n'y a que leur nom qui change, pas leur état d'esprit. Ils vivent très bien à tous les niveaux. Et les institutions internationales s'appuient sur ces partis pour prendre des décisions.
Je pense que c'est une pseudo-autorité. Ils sont pseudo-autorité. Beaucoup d'entre eux sont des communistes ou des secrétaires.
Ce mélange conduit à une pseudo-autorité. La plupart de ces gens sont de vieux communistes, d'anciens secrétaires de l'époque de Tito. Ils ont juste tourné leur veste. Ils pensent à eux, comment avoir une belle maison, comment donner la meilleure éducation à leurs enfants, les belles voitures et tout le tralala. Il ne leur viendrait pas à l'idée de penser au futur de mes enfants. Tous les politiciens du monde sont les mêmes, mais les nôtres sont particulièrement caricaturaux.
Especially safe.
En 2000, les élections ont vu l'accession au pouvoir des démocrates. Jovan Divjak revient sur cette période qui n'a duré que 2 ans.
Après la guerre, nous avons, les citoyens de Bosnie, nous avons la chance de prendre le pouvoir. C'est 2000 années, c'est, on peut dire, parti démocratique qu'on a gagné, pas avec grand pourcentage. Puis on a créé une alliance démocratique. Mais pendant 2 ans, 2000-2002, on a fait les mêmes erreurs, même fautes comme les partis nationalistes. Ça veut dire quoi? Ils se comportaient comme les partis nationalistes. Au moment où ils ont pris le pouvoir, on a remplacé les membres des partis nationalistes, même s'il était bon ouvrier, s'il était, on peut dire, bon, c'est pas bon, employé, car il était le membre. Deuxième, on n'a pas puni les profiteurs et les criminels de guerre. Troisièmement, c'était la même, on peut dire, mafia, c'est la même corruption. C'était grande corruption, même pendant l'alliance. Et voilà, tout ça, c'était le même comme avec les partis nationalistes. Et 2001, 2002, Parti socialiste de Bosnie-Herzégovine, on a perdu 100 000 voteurs. Ils ne sont pas allés à côté des partis nationalistes, mais ils ne sont pas votés. Sur ce 2000, il y avait, je pense, 73% qui ont voté, mais 2002, c'était 49%. On n'a pas voté car l'alliance a trahi. Il n'a pas réalisé tout ce qu'il a promis.
L'échec de cette opportunité démocratique est douloureux. Caroline Audric porte un regard lucide sur les affres politiques qu'engendrent les nationalistes dans la ville de Mostar. Ce point de vue est nourri d'une longue expérience puisqu'elle est membre de l'association grenobloise Drugi Most, très active sur Mostar depuis 1996 via la co-organisation avec le MIFOC, originaire de la ville, du Festival interculturel de Mostar. Cette expérience a pour but de retisser les liens entre les deux communautés bosniaques et croates, démographiquement divisées d'une part et d'autre de la ligne de front. La programmation réunit des artistes venant des quatre coins de l'ex-Yougoslavie et d'ailleurs.
Bah oui, donc on a les mêmes partis politiques au pouvoir qu'avant-guerre, hein, donc le SDS, le Parti National Serbe, le SDA, Parti Nationaliste Musulman, et le HDZ, Parti Nationaliste Croate. Donc ils sont de toute façon incapables de travailler ensemble au niveau de Sarajevo, hein, Parlement. Je veux dire, bon, voilà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Mostar, réunifié administrativement, ça date d'il y a même 3 ans. C'est-à-dire qu'ici, à Mostar, il y a 6 annexes mairies. Déjà, tout est divisé en districts. Hein. Donc il y a ceux de l'Est, ceux de l'Ouest, bien sûr. Et à l'époque, il y avait 2 municipalités, 2 polices. Bon, par exemple, ici, il y a toujours 2 universités. Hein. À l'époque, il y avait 2 drapeaux, 2 monnaies. Je veux dire, on payait avec du kuna croate à l'ouest, et puis le convertible Maraca ici. Voilà, et puis de toute façon, ça arrange tous les politiques, ça les arrange. parce qu'effectivement, ça leur laisse cette possibilité de ne rien faire pour faire évoluer la situation de leurs citoyens. Donc, bon, maintenant, ils ont été obligés de mettre en place une mairie commune, hein. Donc, effectivement, ça tourne d'un parti à un autre, vu que c'est à peu près au même niveau de vote. Donc, voilà, quoi, ça tourne. Un coup, c'est le maire du HDZ avec toute sa clique, et puis un coup, c'est le maire du SDA avec toute sa clique. Et puis, ils ont des adjoints au maire du parti HDZ. Enfin, bref, ça dysfonctionne complètement. Et après, sur l'entière Bosnie-Herzégovine, s'ajoute le problème de la République serbe de Bosnie, où là encore, on est confronté à d'autres choses, même au niveau législatif, où les lois ne sont pas forcément appliquées de la même manière d'un côté ou de l'autre, je dirais de la Drina, quoi, et de la rivière. Et, donc effectivement, quand on fait l'état des lieux, c'est catastrophique et il y a une tout petit pourcentage de gens qui se bougent pour faire que les choses elles évoluent petit à petit. Mais par contre, on sent que cette question de donner du sens au quotidien et de faire des choses qui sont complètement de l'ordre de l'alternative à la situation actuelle, elles sont très peu, mais que ça draine petit à petit des gens qui se posent des questions. Après avoir... comment va évoluer la situation économique du pays aussi, qui reste de toute façon catastrophique, et donc avec des gens qui vivent avec des niveaux de vie excessivement bas. Et avec toujours la pression d'être licencié ou autre pour ceux qui travaillent, par exemple.
Le MIFOC cherche le rapprochement à travers la culture. L'éducation construit la Bosnie avant sur le terrain multiculturel, délaissé par le système éducatif en place, où dans beaucoup d'écoles, les programmes sont différents pour les élèves bosniaques et les élèves croates. Prigovor Sajevski s'attaque à l'institution militaire. Fondé en 1999, ce réseau informe et milite pour la mise en place de l'objection de conscience. Denis, que nous avons rencontré en 2004 à Mostar avec Amir de Radio 202, qui est basé à Sarajevo, en est un des coordinateurs.
D'abord, en fait, la campagne de l'objection de conscience a commencé en l'an 2000, exactement. Mais d'abord, c'était du bouche à l'oreille. Donc c'était des groupes de femmes, des initiatives de femmes qui en parlaient aux gens autour d'eux de cette campagne, donc de l'objection de conscience. Et les gens avaient l'air intéressés de plus en plus et c'est comme ça que ça s'est fait. Malgré le fait que cette loi que j'ai mentionnée tout à l'heure, et qui existe depuis 1996, mais que personne ne savait vraiment qu'elle existe, entrait en jeu.
Cette loi dont parle Amir est en fait une condition européenne qui impose aux armées d'intégrer l'objection de conscience dans leur fonctionnement. Mais pour autant, est-ce que cela a joué un rôle important dans la création du réseau ?
Parallèlement, mais quand même, en fait, une des grandes questions dans l'adhésion à l'Union européenne, c'était la question du règlement du service militaire en Bosnie. Et même si une loi qui existe depuis 1996, donc même si elle existe, le gouvernement n'a pas fait grand-chose de ce côté-là. Donc c'était quelques mots morts sur du papier, quoi.
Comment cette action est-elle accueillie par la population et les partis politiques ?
La campagne est vraiment bien reçue. Nous n'avons pas eu aucun pressing de la part des nationalistes partis.
Je pense que la société civile a très bien reçu, dirais-je, cette campagne, et que même les partis nationalistes avaient soutenu cela. Le plus grand problème qui se posait venait de la hiérarchie militaire. Donc des militaires eux-mêmes. Donc les plus gros problèmes, c'était des menaces donc de toutes sortes de types, des menaces donc d'être expulsé des bureaux, des menaces dans le public, c'est-à-dire des engueulades, etc.
Ce qui touche la société civile, je pense, et ce qui touche njihova reakcija na sve to je jako povoljna. ne znam, što me u suštini nakon rata i nakon svega i nije puno iznenadilo. Onaj. Znači, mislim, normalno, postoji jaka militaristička svijest na ovim prostorima. Ne znam, nija, mislim, većinu nas, ne znam, čak je moj stari i meni govorio, svi smo mi odrasli u nekom duhu da postaneš muško tek kad završiš vojsku, razumiješ? Tako da je ta
militaristička svijest jako ona je posađena u ljudima. Ne znam kako je došlo, baš ono, poznajući tu stranu,
znači,
et notre conscience militaire en tant que, quand je dis ça, c'est que je me rappelle en écoutant mon père me dire qu'après avoir fini l'armée, tu te sentiras plus un homme qu'avant. Et donc, dans tout cela, je suis un peu confus, mais quand même très content que ça ait été bien pris, que les gens ont bien accueilli. Donc, ce qu'on avait à dire.
À l'heure actuelle, il n'y a pas que les armées bosniaques, croates ou serbes en Bosnie. Comment envisages-tu la présence des militaires de l'EOFOR aujourd'hui ?
Istina je da su u jednom trenutku, znači reakcijom.
Je pense qu'avec leur intervention, ils ont terminé une longue guerre et je trouve que c'est un fait très important qu'il faut mentionner. Je les vois comme des colons.
Pourquoi ?
Zato što vjerujem da su oni čuvari jednog poretka koji trenutno nastaje ovdje i koji štiti u stvari tu vlast, tu sponu sistema koja se rađa u simbiozi lokalne vlasti i međunarodne zajednice, razumiješ? Mislim, znači, ja mislim da se ovdje rađa jedan sistem koji treba zaštititi onaj. I mislim, to je sistem koji danas imamo, ne znam, nija, u zapadnoj Evropi.
Je pense que chaque individu a sa propre vision là-dessus. Znači, mais ma propre vision là-dessus, et pourquoi je trouve que je les trouve collants, c'est parce que je les vois en train de préparer le terrain et qu'ils ont déjà fait pas mal de ce côté-là, c'est-à-dire de nous intégrer à ce système et de protéger ce système de protection des intérêts internationaux, c'est-à-dire des intérêts de l'Occident, de système, c'est-à-dire néolibéral. Capitaliste. Et je trouve aussi que même les politiciens, que le système politique local, partant des sociodémocrates jusqu'aux partis nationalistes, font la même chose, c'est-à-dire qu'ils préparent le marché, ils protègent en fait le futur marché qui sera présent ici, c'est-à-dire bien sûr notre pays qui a changé soudainement de système, et donc ce système, il faut le protéger. Et je trouve, je pense que c'est à cause de ça que je dis que je les vois comme des colons.
Les Serbes sachent très bien les Croates aussi, les Bosniaques, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. On peut vivre l'un près de l'autre, mais sans l'autre, non.
Ce court voyage en Bosnie-Herzégovine n'est pas tout à fait terminé. Nous passerons d'ailleurs à la fin de cette incursion à Mostar, en compagnie de Caroline et Aline. À travers leurs expériences, voici des impressions de cette ville qu'aucune carte postale du nouveau vieux pont, fraîchement reconstruit et inauguré en grande pompe après sa destruction en 1993, ne vous donnera.
En 1992, donc quand la Bosnie-Herzégovine rentre en guerre, donc il y a au départ effectivement l'armée serbe qui attaque la ville. Donc après des positions tout de ce côté-là des collines qui canardent. Donc jusqu'en 1993, les bosno-croates et les bosniaques musulmans se battent ensemble. Et en 1993, pour des objectifs de récupération territoriale, les musulmans se font virer des contingents d'armée où ils se battaient avec les croates. Et commence un peu la deuxième vague d'épuration. Donc les gens sont amenés de l'autre côté du boulevard. Et voilà, puis démerdez-vous. Tous les ponts ont été détruits, ce qui fait que les gens étaient bloqués de ce côté-là ou dans cet espace-là de la ville. Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y avait différents groupuscules qui se battaient, il y avait différentes positions. Donc chacun s'est vraiment battu pour maintenir, notamment pour garder Mostar, c'est-à-dire que l'armée s'est battue contre les contingents croates de 93 à 95. Et avec effectivement des combats excessivement sévères. La vieille ville a été détruite à 80%. Enfin bon, bref, les gens vivaient vraiment dans des conditions catastrophiques, avec quasiment aucun accès à la route, puisque s'ils partaient du côté de Sarajevo, c'était bloqué par les Serbes. Et après, l'autre accès était au niveau... Enfin, l'Herzégovine de l'Ouest, c'était tous les bastions nationalistes croates, quoi.
Ils sont restés enfermés ici.
Ouais.
Ils vivaient comment ?
Je sais pas. Comment ça s'est réellement passé pendant la guerre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un énorme tabou, que les gens n'en parlent pas parce qu'ils essayent de pouvoir vivre avec sans avoir été soutenus, jamais. Donc même entre eux, voilà, chacun a perdu des membres de sa famille, chacun a été détruit, donc voilà, maintenant... ils sont vraiment dans autre chose. Bon, moi, les gens avec qui je travaille, il faut voir aussi que c'est des gens qu'on a à peu près le même âge, on est de la même génération. Et eux, à cette époque, ils étaient ados ou lycéens. Et donc, avec aussi une vision des choses et du vécu qui ont été particuliers. Après, moi, il y a des collègues qui ont été au camp de concentration, qui étaient d'Iborne au sud de Mostar. Hein.
Un camp de qui ?
C'était un camp du HVO. Voilà. Donc, voilà, après, ils s'en sont sortis, puisqu'ils sont là. Mais bon, voilà, quoi, il y a eu vraiment des choses terribles, quoi. Je veux dire, il y a eu des bombardements sur des maisons, c'était une catastrophe, vraiment, c'est horrible. Donc c'est dur pour moi d'en parler aussi.
Chaque année depuis 9 ans se déroule le festival interculturel de Mostar. En 2002, le label lyonnais Jarring Effect s'associe au MIFOC et à Drugi Most en lançant deux projets visant à soutenir politiquement et financièrement les structures sur place. L'édition d'une compilation réunissant des artistes du label tels Kaiton, Ezekiel ou Le Fred, la tribu des Spirales, ainsi que d'autres talentueux électrons libres. En plus de cela, ils organisent une tournée en Bosnie-Herzégovine. C'est à cette occasion qu'Aline, encore à l'époque tourneuse d'Aiton, s'est retrouvée à agir d'une manière tout à fait différente de ce qu'elle avait pu faire jusqu'à maintenant en Bosnie.
Quand je suis revenue la première fois à Mostar, pour faire des concerts, en fait, c'était avec Jarring, on est venu avec La Phase, UHT, Aiton, Hybrid Sound System, on a fait des concerts à Mostar, on a fait des concerts à Banja Luka. Et voilà, c'était un projet joint entre le MIFOC et Jarring. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'étais pas super chaude parce que je voyais pas l'intérêt de venir ici pour faire des concerts. Déjà, ça me semblait un petit peu superflu. Mais vraiment, tu vois, j'étais là, ouais, c'est ça, on va aller faire des concerts en Bosnie, ça va aller mieux. Et surtout, moi, après avoir fait des photos pendant hyper longtemps, j'ai fini la guerre en faisant pas mal à bosser vraiment sur des projets d'évacuation, enfin des trucs assez hardcore. Et quand je suis revenue en Bosnie après la guerre, c'était aussi bosser tu vois, faire des missions d'évaluation dans des camps de réfugiés, etc. Et puis surtout en Bosnie, pas en Herzégovine. Et il faut bien comprendre que c'est deux choses complètement différentes. Et que la problématique de l'après-guerre, elle est complètement différente en Bosnie, qui est hyper axée autour de la division. Enfin, même si Mostar, c'est l'exemple atypique, puisque c'est une ville divisée, mais la problématique de la Bosnie, c'est vraiment la division entre la Bosnie, la Fédération et la République serbe de Bosnie. Et puis surtout, toute la problématique autour de l'épuration ethnique, qui est vraiment hyper présente quoi, en Bosnie. Alors qu'ici, le problème, il est différent. D'abord, on est dans une ville divisée, quoi. Et la guerre à Mostar, si tu veux, elle ne s'est pas arrêtée. Même quand les accords de paix ils ont été signés, les gens ils continuent à se battre, quoi. Parce qu'ils ne voulaient pas arrêter la guerre. Il fallait absolument qu'il y ait un vainqueur. Et voilà, qu'on s'est retrouvé à faire ces concerts dans la ville. Et pour moi, ça a été un gros, gros choc. Parce que, tu vois, cet aspect de voir des gens venir à un concert, danser, être super à bloc, faire la fête. Et se retrouver avec des gens qui sont dans une logique de reconstruction complète, hyper positive et tout. Ben moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et ça a été une grosse révolution, quoi. Et depuis 2 ans, je reviens très régulièrement à Mostar. Je fais toujours ce que j'ai à faire dans l'Est de la Bosnie, mais je reviens régulièrement à Mostar pour travailler avec eux parce que, effectivement, je pense que c'est 2 choses super complémentaires. Et c'est pas moins dur, hein, enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est une action, effectivement, qu'on pourrait considérer comme plus légère. Enfin, tu vois, alors que quand même, il faut bien savoir que ici en Bosnie, c'est quand même les nationalistes qui sont au pouvoir, quoi. Ici, la problématique, elle est qu'est-ce que c'est que de se battre pour une culture vivante quand tu as un pouvoir nationaliste et assez extrémiste qui est en place, et quand le fait, par exemple, d'organiser un concert, des fois, ça peut relever de la désobéissance civile.
It was a large room full of people, all kinds. And they had all arrived at the same building at more or less the same time. And they were all free. And they were all asking themselves the same question. What is behind that curtain?
Je dirais que finalement, je pense que le truc qui a le plus d'impact dans toute la ville, c'est le boulot que l'équipe d'animation fait. Donc dans les quartiers assez excentrés comme Rodoč, Donja Mahala, ou qui sont essentiellement des quartiers de réfugiés, quartiers hyper pauvres, etc. Donc là,
qui se trouve autour de Mostar.
Ouais, qui se trouve autour de Mostar, de tous les côtés de Mostar.
Qui regroupe des populations
différentes. En fait, tu vois, des réfugiés musulmans d'un côté, des réfugiés serbes de l'autre, des Roms à Karaserbeš, enfin vraiment tout type de population. Puisque le but, évidemment, c'est aussi que le festival ait lieu dans une zone où chaque côté de la ville puisse venir. Parce que la ville est quand même divisée, quoi. C'est quand même un élément
de manière
hyper flagrante. Et ce n'est pas la réunification administrative et l'inauguration du vieux pont qui va changer quoi que ce soit. Et donc l'idée, ça a toujours été de faire le festival dans une zone qui permettait que les gens d'un côté et de l'autre viennent, ni sans que ce soit dangereux, parce qu'il y a eu passé un temps, c'était quand même dangereux. Et toujours de façon à ce qu'on ne voit pas les gens, d'où les gens arrivent, en fait, si tu veux. Tu vois que voilà, quoi, les gens se retrouvent dans un endroit et point barre. Et l'impact sur la ville, et ben, y a cette équipe d'animation qui a fait un gros travail, je pense, depuis 8 ans, quoi, ça c'est clair. Parce que quand on retourne dans les quartiers maintenant, c'est vraiment « Ah, Francuski !» Et je dirais qu'au niveau des concerts, depuis que tout est regroupé à Brazevic, il y a un plus gros impact parce qu'à Brazevic, avant la guerre, c'était un centre culturel où je pense des générations de Mostariens sont venus apprendre la musique, tu vois, venir au théâtre, voir des marionnettes, il y avait énormément de folklore, etc. Et l'année dernière, quand on a fait la campagne pour avoir le centre, on avait retrouvé une vieille photo de classe d'Abrazevic, donc c'était des gamins, tu vois, c'était une photo d'un orchestre hyper désuète, et on a collé partout dans Mostar, et dans les semaines qui ont suivi, il y a des gens qui ont débarqué au bureau du MIFOC pour dire « c'est moi ». Et du coup, il y a énormément de bienveillance envers le festival depuis qu'on est à Abrazevic, parce que, ok, on fait du bruit, ok... Tu vois, les gens, ils pensent qu'effectivement, bon, voilà, peut-être on fume des joints, on est, tu vois, un peu comme ci, comme ça. Mais rien, qu'il se repasse un truc dans cet endroit, c'est énorme. Il y a plein de gens qui passent tout le temps vachement de vieux. Et tous les jours, il y a au moins 4 personnes qui s'arrêtent, tu vois, pour nous faire signe, tu vois, les pouces en l'air, genre, ouais, c'est trop bien. Au niveau public, on va dire, tous les jours, on va peut-être avoir 100 personnes. Ce qui peut paraître ridicule en France. Alors qu'ici, c'est quand même pas mal, quoi. 100 personnes qui viennent de part et d'autre de la ville, ça va, quoi. Pour un truc, tu vois, qui n'est pas du turbo-folk ou, tu vois, de la musique pourrie, de la variétoche, quoi, et qui présente autre chose, c'est vraiment bien.
Même si l'impact du festival sur la ville est de plus en plus probant, les résultats ne semblent pas satisfaire les différents groupes impliqués dans l'organisation, tant du côté bosnien que du côté français. Il n'y aura sûrement pas de festival en 2006. Drugi Most, le MIFOC et les ONG et collectifs regroupés au sein de Lokatse Abrasevich envisagent de nouvelles manières de ranimer la vie à Mostar. L'action serait orientée sur le renfort des ateliers déjà organisés toute l'année. Cette émission s'est élaborée entre l'été 2004 et l'été 2005. Elle est née de rencontres, tout est plus basé sur la spontanéité que sur l'étude. Un taxi comme professeur en quelque sorte. Il reste beaucoup d'histoires à entendre et à raconter, beaucoup de choses à faire aussi. La route vers les Balkans n'est pas une autoroute, mais elle est ouverte. Mitchell remercie sincèrement toutes les personnes nous ayant donné de leur temps afin que nous touchions de plus près la réalité. Senat Smailbegovic, Adi Sarajlic, Jovan Divjak. Merci à Aline pour la détonation, Sarah, Myriam et Caroline de Drugi Most pour avoir pleinement été un autre pont vers les Balkans, Yasmina Kazazic du MIFOC pour la fête et une relecture au vitriol de la vie à Mostar, Claire Dumerle pour les précieuses rencontres qu'elle a su provoquer, Anonymal, Elodie, Jamel et Cyril, ainsi que Michel, Anne et Thierry. Cette émission fut réalisée par Maya Colombon et Vincent Delpech d'Itchel. Ime kuruci od sebe sve ja dan davam pužim kvalitet, imam podršku, nisam sam, ali uvijek se nađe debila koji počnu provocirat, koji misle da me mogu tako lako živcirat. Radim ove zljubav, radim ovo za raju, pa ti onda dođu nekde geni i na puti staje stvarno konti da me mogu tako lako srušit, a ne znaju da će na kraju opet oni foru pušit. Lagali su, pljuvali, na razne načine pokušavali, sitne gnjide iz daljine samo su zakuhavali, neki su im povjerovali, neki od samog starta nisu, ali izičije sam samo šute svoje rime pime. Čini da se informišu, pa onda dođu nešto seru. Sada šutite ko pičke, šta je, hajde lezi kiru. Borat za svoje, ako treba da gine, mal popusti treću. Ni za para punu vreću, ni za cijelog svijeta sreću. Na nogama čvrsto svojim rokama, sa kruom svojim krenuo sam tako. Nema nazad, ničeg se ne bojim, sve što kaže mislim, to je tako, nikad se ne krijem. Zoveš me da dođe, moj ne misli da ne smije. Ne diraj moje, neću nikad dirat tvoje. Ne diraj moje, ja sam borat za svoje. Ne diraj moje, neću nikad dirat tvoje. Ne diraj moje. Ne diraj moje, neću nikad dirat tvoje. Ne diraj moje, jer ja sam borac za svoje. Ne diraj moje, neću nikad dirat tvoje. Ne diraj moje, jer ja sam borac za svoje. U javnosti nas prozivate, porodice vrijeđate, na razne našte pokušavate neke laži izmišljate. Ljubomora vas pojede, ne znate šta ćete od muki. Pa lajete kod cuke, jao, jao, vidi buke. Mi smo plagijati, bajteri, hejteri i fejkeri. To samo mogu reći majmune ne seri. Vaša mržnja meni samo daje više inspiracije za nove kreacije i za vaše bolne kastracije. Za svoje ću se boriti i na kraju izboriti. Nikad neću prestat svoje mišljenje vama govoriti. Neću odustat ni usporiti, nećete me pokoriti. Nemate šanse protiv mene jer ja ću vas razoriti. Ako ima nešto da mi kaže neka lično dođe, a ne pored mene spuštene glave da prođe. Onda sa sigurne daljine opet nešto laje. Ali ja se ne bojim, slobodno dođi, bolan šta je. Na svoje ne dam, tvoje ne diram, zato hajde u tebi. Ruke prljo sada ne bi muke si uštedi. Ne moraš me poštovati, nemoj mi se ne obraćati. Shvati da se uvijek sve na svoje vrati. Ne diraj moje, neću nikad dirat tvoje. Ne diraj moje, jer ja sam borac za svoje. Ne diraj moje, neću nikad dirat tvoje. Ne diraj moje, jer ja sam borac za svoje. Ne diraj moje, neću nikad dirat tvoje. Ne diraj moje, jer ja sam borac za svoje. Ne diraj moje, neću nikad dirat tvoje. Ne diraj moje. Nešto protiv mene sereš, vrijeđaš me i pliješ. Misliš da me tako zbunješ, meni nešto psuješ. Pa laži imaju kratke noge, to ti neće proć. Previše si se zaletio, moj savjet ti je koč. The South ekipa svoje brani majkom i šakom. Održat ćemo predave našem protivniku svaku. Nećemo se povlačit, ni šutjeti, ni bježat. Nemoj niti na nas, nećemo ni mi na tebe režat. Riječi su za hinje, djela pokazuju ko je šta. Ja sam se dokazao ko sam Daisy, to se zna. I ovo nije prijetnja, nego samo obećanje. Ko bude srao protiv nas, čekat će. Moram ovo reći jer su neki pokušavali reći nas pilot preko naših leđa i respect stage. Nekima je krivo, neki nas ne vole radi neki. Zar nije bolje da se poštijem ovih dana teških? Kreteni nama psuju, povjeruju šta god čuju. Meni stvare veliku buju, izazivaju oluju. Na
pijem, a sredom idemo jedan po jedan. Sve će doć na svoje, ja sam hip-hopu predan.